L'aspect fondamental, c'est le respect. Certains auraient peut-être dit l'amour. Moi, je ne mets pas l'amour en premier. Parce que pour moi, le respect, c'est la base. S'il n'y a pas de respect, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, on cherche, via notre partenaire, un moyen de satisfaire nos besoins. Uniquement.
Comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et en fait, parfois, les détails prennent de plus en plus de place. J'ai une amie qui me disait la dernière fois, le quotidien, c'est des petits riens, mais ça fait tout.
Quand dans un couple, il y a, même s'il y a des choses qui ne vont pas, mais qu'il y a un minimum de remerciements, il y a une prise de conscience des efforts de l'un et de l'autre, et qu'on se pose et qu'on dit merci pour ce que tu as fait, ça apaise le cœur. C'est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de son corps pour Dieu déjà, parce que c'est une amana, mais aussi pour soi et pour son partenaire.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Dans ce nouvel épisode, nous explorons le couple dans tous ses états. Routine, ingratitude, bonheur, paix du cœur. Le mariage n'a rien d'un parcours linéaire. Farida Kasset nous partage donc ce qu'il est bon de faire pour construire son propre itinéraire vers une union épanouie. Si le premier des carburants était l'axe spirituel, le second avec lequel nous débutons cette conversation est l'aspect psychologique et émotionnel de la relation. Avec Farida, on énumère les valeurs clés à cultiver pour préserver la paix dans son foyer. Le respect, une qualité qui semble évidente, mais qui souvent manque. L'empathie, ou comment voir à travers le regard de l'autre sans se perdre de vue. Et enfin, le plus compliqué à appliquer, l'appréciation de la simplicité. Le dernier axe qui n'est pas des moindres, met à l'honneur la dimension corporelle. Étant des êtres de chair, cette réalité ne saurait être occultée, même si notre quotidien tend à la minimiser. Je remercie chaleureusement Farida pour son temps et son partage d'expériences tous deux précieux, et prie Dieu pour que nous connaissions tous et toutes la joie de former un couple heureux dans cette vie, mais surtout dans les cieux. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
Justement, ça donne une belle transition pour montrer déjà à quel point les axes sont liés. Et justement, ça va nous permettre d'avancer vers le second acte, si tu le veux bien, qui est l'axe, tu vas nous le présenter, mais je trouve ça très intéressant parce que ça a été une transition naturelle de dire que l'axe spirituel, religieux, c'est la base, mais il est lié à un second axe et chacun des trois axes va se nourrir comme on va le voir. Je te laisse présenter le second axe.
Du coup, le second axe, c'est plus l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, parce que c'est essentiel de mon travail. Et à travers plusieurs, entre guillemets, sous-catégories, si on peut en parler comme de cette manière-là, ces différents aspects sur l'aspect émotionnel, c'est qu'un moyen aussi, entre guillemets, d'adorer Dieu d'une certaine manière. C'est-à-dire que si, au niveau psychologique, à travers certains efforts que je vais faire par rapport au respect, par rapport à l'empathie, à la communication, à la reconnaissance, par exemple, après on va voir ça plus en détail, Inch'Allah, ça sera aussi, d'une certaine manière, un moyen pour que ma vie de couple se passe bien et aussi, et donc du coup, adorer Dieu de cette manière-là, parce qu'il y a plusieurs, alhamdoulilah, manières d'adorer Dieu, et le fait que ça se passe bien dans mon couple, que je fais des efforts peut-être sur l'aspect du coup psychologique, pour ma part, si on y met l'intention, j'espère que ça sera accepté comme ça, que ça sera de l'adoration. Donc qui dit adoration, dit bonnes actions, et je pense qu'on en a tous besoin.
Oui, c'est clair, n'a jamais assez. Ça passe par quoi exactement, justement, cet aspect psychologique ? Qu'est-ce qu'il contient ? C'est quoi les enjeux ? C'est quoi l'intérêt d'avoir un axe psychologique et émotionnel qui est solide ? Ça passe par quoi ? Et c'est quoi le bon résultat, au-delà de l'acte d'adoration qui est déjà
un
bon résultat, on est bien d'accord.
Bien sûr. Mais après, il faut des fois aussi des choses un peu plus concrètes, on va dire, qui se voient plus au sein du couple. Après, ça passe par plusieurs choses, mais moi, je dirais vraiment, l'aspect fondamental, c'est le respect. Certains auraient peut-être dit l'amour. Moi, je mets pas l'amour en premier. En tout, c'est un choix de ma part, parce que pour moi, le respect, c'est la base. S'il n'y a pas de respect, ça marchera pas. Ça marchera pas.
C'est quoi le respect ? C'est le fait d'estimer l'autre. C'est le fait de, tu vois, pour qu'on comprenne bien justement en quoi c'est si important.
Alors, la notion de respect, elle diffère d'une personne à une autre. Ça, chacun n'est pas la même chose sous le mot respect. Parce que des fois, en entretien, les personnes parlent du mot respect, mais ils ne mettent pas la même chose à l'intérieur. Donc, je dirais que ça diffère aussi d'une personne à une autre. Après, le respect, comme tu l'as très bien dit, respecter son partenaire, ça signifie qu'on l'estime, qu'on lui accorde de la valeur. Et que même si des fois, on est en désaccord avec lui, avec elle, il n'y a pas de parole blessante. On ne dit pas des insultes. Il y a des limites à ne pas franchir dans un couple. Parce que des fois, quand on dépasse cette limite, là, je vous garantis que faire demi-tour, c'est très difficile. C'est difficile. Donc, c'est aussi... Je parle même, pour moi, ce n'est pas que les insultes, parce que les insultes, tout le monde va se mettre d'accord. Oui, c'est un manque de respect. Ne pas lever la voix. Pour ma part, après, c'est encore une fois, pour d'autres, ça sera pas le cas, et je respecte, hein. Parce qu'après, ça dépend de plusieurs choses, de l'éducation. Le modèle familial joue énormément, par contre, sur la notion de respect. Ça, c'est un constat que j'ai pu avoir. Mais c'est écouter l'autre. Écouter, j'ai bien dit. Et ça, c'est quelque chose que peu de personnes savent faire. Écouter sans couper la parole. Et ça, je le vois cruellement. Vraiment, en consultation, c'est impressionnant. Ou des couples, donc on est trois dans le bureau, les deux et moi-même. Des fois, je suis obligée de faire l'arbitre en pleine consultation. Des fois même, ça m'arrive rarement, mais je suis obligée vraiment de mettre du poing sur la table, même limite de crier, au vrai sens du terme. Ça m'arrive très rarement, alhamdoulilah, mais voilà. Parce que les gens parlent, ils ne s'écoutent pas. Ils se coupent la parole. Donc du coup, l'autre, il ne va pas aller au bout de ce qu'il va dire. Et du coup, c'est une frustration horrible, au vrai sens du terme. Puisque les gens... Ils se concentrent plus sur ce qu'ils vont dire, sur leur argumentaire, entre guillemets, ouais. Exactement, mais pas sur ce que l'autre y dit. Donc, pour moi, écouter, c'est « je pense ce que je veux, il n'y a aucun problème, pense ce que tu veux. » Écoute attentivement, sans être sur ton téléphone, pitié, ce que l'autre va dire. Écoute, même si tu n'es pas d'accord avec l'autre, écoute ce qu'il veut dire, prends conscience de ses besoins. Et tu as le droit de pas comprendre ce que l'autre veut. Il n'y a pas de souci. Par contre, c'est important de respecter. Il y a des choses, je vous garantis, même si vous avez 10, 20, 30, 30 ans de vie de couple, vous n'arrivez jamais à comprendre l'autre. Mais ce n'est pas possible comment il fonctionne comme ça. Vous n'arriverez pas, sincèrement. Ça, il y a plein de couples qui me le disent, et ça, c'est une réalité. Par contre, je respecte ton point de vue. Je ne suis pas d'accord avec. Après, pas non plus que ça soit en décalage avec mes convictions spirituelles, personnelles, etc. Parce que après, sinon, il y a des limites qui vont être franchies. Mais j'écoute, je respecte ton point de vue, même si je suis pas d'accord. J'écoute tes besoins. C'est ça, le respecter. C'est que toi, tu existes. Tu as des besoins. Tu as un être avec des sentiments, des émotions, des besoins. Et moi, j'essaye de les écouter, d'en prendre compte. Et de tenter, dans la mesure de mes capacités, d'y répondre. Mais c'est ça, le respect. Donc, c'est pas juste des insultes. C'est déjà juste s'écouter sans se couper la parole. Oh là là, mon Dieu, mais ça serait... Oh, sincèrement, ça faciliterait beaucoup de problèmes de couple. Et ça faciliterait la communication.
C'est déjà une grande partie du travail. Ouais, mais en fait, si on peut déjà s'arrêter sur cette notion-là, je pense que c'est très important parce que tu as dit plusieurs choses. Déjà, tu as dit, donc tu as défini le respect selon toi. Donc, on repart à ce qu'on s'est dit au tout début, c'est qu'un couple épanoui, c'est un couple qui se connaît. Enfin, chacun se connaît, chacun sait ce qui est important pour lui. Après, moi, je suis pas pour la réappropriation de tout, parce que dans la vie, il y a des définitions qui sont claires, hein, et c'est important, en fait, de mélanger objectivité et subjectivité. C'est-à-dire qu'on regarde objectivement ce que c'est que le respect, et après, effectivement, on repart sur dans quel environnement j'ai grandi, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui est important pour moi, et enfin, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et là, on se dit, voilà. Le respect, c'est ça, d'une manière générale. Il n'y a pas à prendre le respect et se dire « ouais, non, c'est pas du tout ça ». Non, le respect, c'est ça. Je le singularise en fonction des deux êtres humains qui composent le couple. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, singularité, appropriation de son couple, appropriation des choses. Et puis après, on part du principe que dès lors où c'est important pour mon mari, c'est important pour moi. C'est important pour mon épouse, c'est important pour moi. C'est ça aussi le respect, c'est de se dire j'aime suffisamment la personne que j'ai choisie. On est dans une époque quand même où je pense que la très 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 grande majorité des gens ont choisi leur conjoint. Vous l'avez choisi, hein. Donc c'est quand même qu'à un moment donné, vous l'estimiez suffisamment, vous l'aimez suffisamment pour vous dire j'estime l'intelligence de cette personne. Pour pas à chaque fois se dire mais elle est bête ou quoi de penser comme ça, il est bête ou quoi de... C'est pas possible, ça. Vous l'avez choisi. Donc, on ose espérer qu'on va pas choisir des personnes pour qu'on n'a pas de respect, dont on n'estime pas l'intelligence. Et si la personne ne réfléchit pas comme nous, bah, c'est pas qu'elle est bête, c'est que Allah a choisi cette personne pour nous compléter parce que ça va nous apporter quelque chose. Comme tu l'as dit, on peut ne pas être d'accord, mais peut-être aussi, encore une fois, remettre Allah au centre de nos vies et de se dire, bon... Allah, il m'a amené cette personne dans ma vie. Donc, j'ai bien conscience qu'on est très différents sur ça, mais qu'est-ce qu'Allah a voulu m'apporter en me l'apportant moi dans ma vie? C'est ça aussi le respect. C'est respecter la décision qu'Allah le choix d'époux qu'Allah a fait pour nous, le choix d'épouse qu'Allah a fait pour nous. Ça passe aussi par là, le respect. Et c'est encore une fois prendre les valeurs de la personne et se dire, je respecte tellement mon époux, mon épouse que je veux pas lui faire de mal, je veux pas lui faire de tort. Quand je marche sur l'amour propre de mon époux, de mon épouse, c'est comme si je marchais sur le mien. C'est un peu ça finalement, le respect.
Il y a de ça. Ce qui est important finalement, ce que tu as bien dit, c'est que ce qui est important finalement pour mon partenaire, j'essaie de le rendre important dans mon comportement. Ça sera pas forcément important pour moi, parce que encore une fois, tu as parlé ce qui est important pour moi aussi en tant que personne, mais j'essaie dans mon comportement de lui faire plaisir par rapport à ça. S'il y a des choses qui sont importantes pour mon mari, ça ne l'est pas pour moi. Je ne vais pas me les appliquer à moi, forcément, parce que l'objectif, ce n'est pas de se perdre en se mariant et en faisant plaisir à 100% des attentes de son partenaire, parce que sinon, on va se faner. Et ça ne sera pas bon. L'objectif, ce n'est pas que l'autre il soit 100% à notre image, parce que ça ne sera pas bon. On va le façonner et ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne façonne pas les gens, surtout au bout d'un certain âge. Donc, puis même, on n'arrive pas d'une manière générale. Mais se dire, c'est important pour mon partenaire. Je vais essayer d'y répondre parce que c'est important pour lui. Mais je ne suis pas censée aussi forcément me l'appliquer pour moi d'une manière individuelle. Donc, je peux garder mon individualité, faire des efforts, bien évidemment, pour faire plaisir à l'autre. Et c'est important parce que, comme tu l'as si bien dit, je l'estime. J'ai du respect pour lui et parce que je l'aime, tout simplement. Mais ce que je vois dans les couples aujourd'hui, c'est que, bon, bien évidemment, la notion de respect, elle peut être différente d'une personne à d'une autre. Mais quand on a eu un schéma parental où il y avait peut-être pour le commun des mortels, un manque de respect, ou peut-être il y avait des cris, des insultes, pour certaines personnes reproduisent ça dans leur propre couple et du coup, l'autre n'accepte pas ça parce qu'il minimise la souffrance de l'autre. Et ça, c'est difficile par contre. Parce que du coup, là, je suis face des fois à certaines situations où un des deux va dire « Non mais attends, tu lèves la voix, il y a eu des insultes, il y a de la violence verbale, physique. » L'autre dit « Non mais c'est rien ça. » C'est vraiment... mot pour mot. Et moi, écarquillé, j'en dis, comment ça, c'est rien? Mes parents ont vécu ça pendant 30 ans. Oui, mais ce qui appartient à tes parents appartient à tes parents. Ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire dans ma vie de couple, ça m'appartient aussi, d'une certaine manière, bien évidemment. Donc ça aussi, c'est
Bien
très
sûr.
important. Parce que ça, je vois, il y a des fois même certaines personnes qui me disent, même qui normalisent ce qui n'est pas normal. Et ça, c'est dramatique quand même, vraiment. Parce que du coup, malheureusement, des fois, on se rend plus compte de certaines choses parce qu'on est baigné dans un climat familial, amical, pendant 10, 20, 30 ans. Donc des fois, quand il y a des cris, quand il y a des insultes, bah, pour certaines personnes, au vrai sens du terme, c'est normal. Et quand vous épousez une personne pour qui c'est tout le contraire, ça crée des clashs, ça crée des problématiques, parce que dans certaines familles, je vois beaucoup de couples où les personnes sont très calmes, très, ça veut dire qu'elles sont soumises, hein, mais très respectueuses, il n'y a pas un mot au-dessus de l'autre, et dans leur schéma familial, c'est comme ça. Dans d'autres, ça crie, ça lève la voix, avec quelques insultes, c'est normal pour eux. Donc du coup, quand il y a ce mélange-là des deux milieux, ah bah par contre, ça crée des incompréhensions. Et encore une fois, comme tu dis si bien, il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est important? C'est pour Dieu. Comment la notion de respect aussi, elle se manifeste pour Dieu? C'est très important. Et trouver du coup un juste milieu pour que les besoins de l'un et de l'autre puissent être satisfaits et apaisés.
Ouais, ben c'est vraiment ça ce que j'aime beaucoup le terme que tu as d'utiliser, c'est la notion du juste milieu. Et c'est vraiment ça, c'est de se dire comment je fais pour oui, pour qu'on puisse se retrouver dans un équilibre qui est sain. Et encore une fois, c'est très très important de pas se dire ah mais en fait pour moi le respect c'est ça. Ben, pour moi, le respect, ça peut inclure de s'insulter, hein. Tant que je t'ai pas tapé, ça ne veut pas dire que je te respecte pas. Non, 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 non. Il y a un juste milieu à trouver, encore une fois, dans une objectivité, dans une définition claire, et puis après, on y met de la subjectivité. Mais si déjà, on se dit, comme tu l'as très bien dit, c'est quoi le respect pour Allah? C'est quoi le respect pour les hommes de manière objective? Et après, on va chercher de la subjectivité. Mais on ne commence pas à aller chacun dans des extrêmes en se disant, mon extrême, c'est la norme. Ça ne va pas marcher. Est-ce qu'il y a d'autres qualités, appréciations qui sont aussi liées à cet axe psychologique et qui permet aussi de parvenir à un couple épanoui?
Bah, cette notion de respect, comme disait aussi, tu vois, elle implique de prendre en compte, d'écouter déjà les besoins de l'autre. Et donc, du coup, pour écouter les besoins de l'autre, eh ben, il faut de l'empathie. L'empathie, c'est reconnaître, enfin, c'est un peu, beaucoup, ça dépend en fonction des capacités de chacun, se mettre à la place de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui. C'est se dire, d'accord, je me détache un peu de moi, de mon nefs, de mon ego, et j'essaie de voir ce qui est important pour l'autre. Si pour l'autre c'est important, je sais pas, je dis n'importe quoi, de sortir, d'aller faire des activités à l'extérieur, même si moi je suis un peu casanée, bah, je vais faire l'effort. Ça ne veut pas dire que je vais être tout le temps à l'extérieur parce que ça ne me correspond pas. Je sais que c'est important pour mon partenaire. C'est ce qui le nourrit psychologiquement, ça fait partie de son identité, de sa personnalité. Donc, je vais essayer de faire un peu l'effort là-dessus. Donc, l'empathie, je me mets à la place de l'autre sans forcément comprendre, parce qu'on n'arrivera pas toujours, mais respecter le besoin de l'autre. Donc, ça implique, voilà, de prendre un peu de recul, de me détacher de mon ego et de se dire que dans un couple, eh ben, l'autre n'est pas que censé me satisfaire aussi. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les couples. Et c'est pour ça que les couples ne tiennent pas, pour être totalement transparente. C'est que aujourd'hui, on cherche, via notre partenaire, un moyen de satisfaire nos besoins. Uniquement. Pas que, bon, je caricature un peu, mais pas totalement, pour être honnête. Donc, du coup, ça ne va pas être positif. Donc, c'est pour ça que les couples ne tiennent pas, parce que c'est moi, moi, moi. L'autre, il fait pas ci, l'autre, il fait pas ça. Et toi, alors, dans tout ça? Est-ce que tu as pu répondre aux besoins de l'autre? Est-ce que tu as pu écouter ce qui était important pour l'autre? Se détacher un peu de soi et se dire, bah voilà, c'est pas que moi et je et que l'individualisme, alors qu'aujourd'hui c'est Dieu de la société, c'est moi, 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 mais se dire, mais moi, d'accord? J'ai pas dit qu'il fallait nier, encore une fois, c'est important d'être moi-même dans un couple, mais je prends le temps de discuter de ce qui est important pour l'autre, et même si c'est pas dans mon éducation, même si c'est pas dans ma culture, je vais faire l'effort. Le résultat, il appartient toujours à Dieu. Mais si on a une bonne intention, on prend le temps d'écouter, on fait l'effort pour satisfaire Dieu, ça sera facilité. Mais l'empathie, c'est super important. Parce que des fois, on trouve des couples où, où un des deux, bah, finalement, n'arrive pas du tout à répondre aux besoins de l'autre. Il se concentre uniquement sur lui. Et donc, du coup, là, c'est compliqué. Donc, l'empathie, pour moi, c'est très important. Et c'est dur aujourd'hui. Dans une société où l'empathie, oh, ah, faut la chercher. Hein. Ah, faut la chercher en
Ouais,
toute
mais c'est ça.
société.
Tu fais bien de le préciser parce qu'encore une fois, tu sais, c'est un peu quand tu disais précédemment que finalement le dieu des hommes, c'est un peu devenu l'euro. Bah en fait, naturellement, l'être humain, surtout s'il est croyant, va se dire, mais pas du tout. Enfin voilà, moi j'ai bien conscience de qui est mon seigneur. Mon seigneur, c'est pas l'euro. Ou non, mais ça va, je suis pas complètement égoïste. Hein, je fais des choses pour l'autre, etc. Et c'est vrai, mais en fait. Comme on dit, le diable se cache dans les détails et en fait, parfois, les détails prennent de plus en plus de place. J'ai une amie qui me disait la dernière fois, le quotidien, c'est des petits riens, mais ça fait tout. C'est-à-dire que c'est vraiment des petites choses sur lesquelles tu peux faire basculer ton couple parce que bah, il ou elle laisse tout le temps traîner ses affaires, il, elle a une manière de manger qui peut t'agacer. Ça peut paraître ridicule, hein. Ça peut être ridicule, mais cumulé, ça fait basculer la chose. Et tu vois, quand tu disais qu'effectivement l'empathie aujourd'hui c'est dur à trouver, je pense qu'il faut vraiment, faut que chacun d'entre nous puisse se dire. Où est-ce que je pêche par mon manque d'empathie dans mon quotidien et comment je peux le réparer? Parce que ça peut sembler, non mais moi ça va, je suis pas du tout comme ça. Hein. Quand je fais à manger pour tous les deux. Quand je ramène de l'argent sur la table, eh ben c'est pour tous les deux. Donc non, je suis pas égoïste. Mais force est de constater, je pense de par ton expérience, que ce manque d'empathie, il est réel et il se cache dans beaucoup de nos comportements au quotidien, quoi.
Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça il faut prendre du recul aussi sur sa propre vie de couple. Il faut d'abord travailler sur soi pour savoir comment je peux améliorer cette empathie-là et aussi prendre un peu du recul parce que si malheureusement, là, on est dans une société où tout va très, très, très vite. Donc, des fois, je dirais, je prends un peu de hauteur par rapport à ce qui se passe dans mon quotidien, dans ma vie de couple et j'essaye aussi de voir ce qu'il y a de positif. Tout ne sera pas parfait. Mais comme Dieu il le dit, voilà, il y a des choses qui seront. Il faut aussi se concentrer sur ce qu'il y a de positif et aussi un peu minimiser sur ce qu'il y a de négatif. Parce que sauf si bien évidemment ce qui est négatif nous impacte et nous blesse au plus profond de nous-mêmes, c'est pas dans ce sens-là. Mais tout ne sera pas parfait et du coup aussi se dire voilà, c'est une balance. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a une part de lumière, il y a une part d'obscurité, comme en chacun d'entre nous, hein. On n'est pas des anges, hein. Chez l'autre, ça sera pareil. Et des fois, tu te dis, oui, mais regarde, elle a quand même ça. Est-ce que ce qui est positif, les qualités qui est là, est-ce que ça dépasse pas des fois les petites maladresses, les petits moments de manquement? Et se dire que des fois, bah, les situations, elles seront difficiles, elles seront pas parfaites. Et que des fois, faut faire preuve d'empathie. Il y a des moments où, voilà, je pense pas, voilà, nous qui sommes des femmes, il y a des moments où, voilà, il y aura des périodes très difficiles, l'accouchement, l'allaitement, l'éducation des enfants, ça prend énormément de temps. Donc déjà, en tant que personne, bah, on se perd un peu. Et du coup, bien évidemment, ça va avoir des répercussions sur le couple. Hein. Donc, il faut accepter ça aussi. C'est-à-dire qu'à des moments, bah, ça sera plus le couple parental qui prendra le dessus sur le couple conjugal. Et du coup, il y a des hommes qui disent, oui, mais elle m'a abandonné, elle me consacre pas plus de temps. Je peux comprendre que ça soit un besoin de l'homme et je ne minimise pas, mais est-ce que tu peux comprendre aussi que ta femme, à ce moment-là, elle a la tête sous l'eau et que peut-être que si tu l'aides un petit peu, elle pourra sortir de la tête de l'eau et, entre guillemets, plus être disponible en tant qu'épouse. Donc, ce n'est pas que des reproches, etc. C'est aussi, c'est-à-dire avoir une vision d'ensemble et des fois aussi faire preuve de patience et dire, bah, c'est un cap à passer. Quand une femme, elle met au monde un, des enfants, etc., les premiers temps, c'est compliqué pour le couple. C'est épuisant, c'est éreintant, surtout pour la femme. Donc, c'est prendre un peu de recul par rapport à tout ça et se dire, bah, voilà, si on a l'aspect spirituel, on se dit aussi, Alhamdoulilah, elle vient de mettre au monde un cadeau de Dieu, elle s'en occupe, elle est épuisée, peut-être qu'elle se coiffe pas les cheveux, elle est en pyjama toute la journée, mais elle prend le temps d'allaiter notre enfant, alors que des femmes, voilà, je porte pas de jugement, bien évidemment, vont peut-être prendre un biberon, elle s'occupe quand même de l'autre enfant, il se passe bien, il se porte bien, Alhamdoulilah. Et ben, moi, bah, je vais mettre un petit peu de côté mes besoins un temps. Après, Alhamdoulilah, ça va évoluer parce que l'enfant, il va grandir, Inch'Allah, ça sera mieux. Donc, voilà, c'est voir aussi ce qu'il y a de positif Et qui est aussi du coup de la reconnaissance. C'était ça le point aussi sur lequel je voulais en venir, c'est que dans les couples où ça se passe pas très bien, il y a beaucoup de reproches. C'est un peu la balle de ping-pong. Et du coup, moi je le vois des fois en entretien, je suis l'arbitre quoi. Eh ben non, mais moi faut que je dise ça, moi je vous dis ça, tac 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 tac. À qui va balancer le plus fort, à qui va piquer le plus fort? Non, il faut que dans un couple il y a de la reconnaissance. Quand l'un et l'autre a fait quelque chose, c'est pas acquis. Si l'autre a fait un bon plat et qu'elle a mis un certain temps, que la personne a mis un certain temps en cuisine, il faut remercier. C'est pas quelque chose de normal. Qui aujourd'hui mange un bon plat tous les jours? J'en connais pas beaucoup. Ça prend du temps, de l'investissement, de l'argent aussi, mine de rien. Enfin, je veux dire, tout ça. Et quand il y a des efforts qui sont faits, je sais pas, que la maison elle est bien rangée, que le plat, un bon plat a été fait pour répondre aux besoins de l'autre, qu'il y a eu un effort pour s'apprêter physiquement aussi, c'est oh ouais, c'est sympa, t'es jolie aujourd'hui. Oh bah c'était bon, franchement, hein, magnifique, merci. 3 secondes. Ça prend pas 3 heures. Je veux pas de remercier matin, midi et soir, bah, si on peut le faire, alhamdoulilah, mais au moins quelques fois, juste merci. Et le merci. Oh, elle a du mal à sortir. Parce que le fait
C'est
de dire
vrai,
merci,
tu le
ouais.
vois dans les couples contemporains, on se dit moins merci qu'avant. Et tu vois que ça peut. Parce que l'idée, c'est vraiment de voir justement le résultat sur des couples à qui ça réussit. Est-ce que tu vois. Alors, un, est-ce que tu constates que la gratitude est de moins en moins présente? Et de deux, en quoi ça peut vraiment faire basculer un couple de un couple qui va pas bien à un couple qui se sent bien, justement?
Après, est-ce qu'elle est moins présente qu'avant? Ça, que les couples de l'ancienne génération, ça, je pourrais pas te le dire concrètement, mais je sens que quand dans un couple, il y a, même s'il y a des choses qui vont pas, mais qu'il y a un minimum de remerciements, il y a une prise de conscience des efforts de l'un et de l'autre, et qu'on se pose et qu'on dit merci pour ce que tu as fait, ça apaise le cœur. Ça apaise le cœur et ça permet de continuer l'effort. Je prends l'exemple, si par exemple une femme, elle va, ou l'homme, peu importe, mais va s'apprêter, va prendre du temps dans la salle de bain, une épilation, un maquillage, un coiffeur, une belle tenue, et que l'autre ne remarque pas, je peux vous garantir, enfin, entre guillemets, que les efforts, ils risquent de ne pas se reproduire. Ça peut se reproduire une deuxième fois, une troisième fois, mais s'il n'y a pas un minimum de reconnaissance de la part de l'autre, les efforts, ils vont s'épuiser. Certes, on fait les choses pour Dieu, mais celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Donc, c'est important de remercier, de complimenter, d'avoir du positivisme, de se dire, d'accord, il y a des choses qui vont pas, mais, alhamdoulilah, franchement, c'était sympa. Parce que quand on remercie, ça veut dire qu'on a conscience de ce qu'on a devant nous, on a conscience de l'effort que la personne elle fait et on la respecte. Mais si, et on se dit que c'est pas acquis, parce que si une personne elle fait toujours, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, l'exemple de la cuisine, un magnifique plat, toujours la personne s'apprête et qu'il n'y a aucun remerciement de l'autre, d'une manière ou d'une autre, hein. Après les langages d'amour sont différents, ça devient normal. Ça devient normal d'avoir un bon plat tous les jours. C'est normal d'avoir une belle femme tous les jours. Eh non, c'est pas normal. C'est comme quelqu'un qui mange du caviar tous les jours. À un moment donné, il a plus. Pour lui, manger du caviar, c'est comme pour nous manger des pâtes, quoi. Je veux dire, c'est, il y a plus, il y a plus de saveur. On n'apprécie plus. Alors que si on
Ouais, et en fait,
remercie, c'est important.
et c'est, enfin, je me dis que au-delà de ce que tu dis, ou en tout cas en complément de ce que tu dis, le fait de ne pas être dans la gratitude, c'est ça qui te fait perdre quelque chose d'extrêmement important. Et on en a parlé en fin de conversation avec Ousmane au moment où cet épisode-là sera diffusé. L'épisode dont je vous parle là, vous en aurez déjà profité. Normalement, c'est épisode 29, Inch'Allah. Il a dit quelque chose que je trouve très beau et qu'on n'a pas eu le temps de trop développer, mais c'est le fait de réapprécier la normalité. fait, il expliquait que donc Ousmane, il a parfois été amené à faire le médiateur au sein de couples qui vont pas bien, et médiateur religieux. Et il expliquait que souvent, justement, on a du mal à apprécier la normalité. Et le fait d'apprécier la normalité, c'est très très difficile aujourd'hui. Encore une fois, depuis tout à l'heure, on parle de faire à manger, de s'apprêter. Et peut-être que les gens vont se dire, mais ça, c'est du basique, c'est du vu et revu. Mais en fait, non, pas tant que ça, parce que justement, on est sur des acquis qui ne sont plus. C'est aussi, je pense, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en fragilité. Et la bonne nouvelle, c'est que justement, comme c'est des choses simples, ben, c'est facile à faire. Et c'est des choses qui vont permettre de redonner de l'éclat au couple, qui vont permettre de redonner de l'éclat à sa foi aussi. Parce que quand on remercie, comme tu l'as très bien dit, celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Allah. Et le fait d'éprouver de la gratitude envers les hommes, ça revivifie aussi sa relation avec le Créateur. Et c'est là où se loge le point central de notre bonheur. Donc réapprécier la normalité, ça paraît... à la fois bateau, à la fois facile, à la fois ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver cette normalité-là, mais ce qu'on est, je pense, en train de se dire, c'est que c'est dans cette normalité qu'on peut vraiment trouver de la joie et de l'épanouissement, Inch'Allah.
J'irais même plus dans cette normalité-là et dans cette simplicité-là. C'est que malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que pour être heureux, il faut avoir plus, il faut aller à Dubaï, il faut encore Dubaï, je crois que c'est je suis encore arriériste, j'ai des trains de retard, je pense qu'il faut plus aller à Zanzibar ou en Patagonie ou en Australie. Désolée, j'ai loupé le train, je suis de l'ancienne école, mais c'est qu'on a l'impression que pour être heureux, il faut sortir, il faut avoir le beau sac à main dernier cri qui vient de sortir, il faut aller dans le magnifique restaurant à Paris parce que une influenceuse elle a mis ça sur les réseaux sociaux. Eh, c'est pas ça qui rend heureux. Moi je vous garantis, c'est pas ça qui rend heureux. Il y a des gens des que j'accompagne en consultation qui vraiment alhamdoulillah, hein, ils gagnent très 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 bien leur vie et ils sont pas heureux. Donc, ce n'est pas l'argent qui apporte le bonheur. Ça facilite le quotidien. C'est, bien évidemment, alhamdoulilah. Ce n'est pas, dans ce sens-là que je veux dire. Mais ce n'est pas en ayant plus que vous allez être mieux. C'est en appréciant, les moments de simplicité, de normalité. Mais la normalité aujourd'hui, elle diffère énormément d'une personne à une autre. Ce qui est normal pour une personne, c'est peut-être d'aller en Patagonie. Hein. Et c'est pas de partir en vacances juste en Normandie, hein, mais au vrai sens du terme. Hein. Donc des fois, il faut peut-être aussi revenir à l'essentiel et se dire, d'accord, mais je veux passer du temps avec mon mari, avec mon partenaire, parce que je l'aime. C'est bien d'aller dans un cadre magnifique, etc., bien évidemment. Mais des fois, je vous garantis que juste le fait d'être à la maison, avec un verre de café, vous pouvez être très heureux. C'est une certitude. Et que ce n'est pas le fait de prendre cette tasse de café à l'autre bout du monde qui va vous rendre heureux. Je me rappellerai toujours de la métaphore qu'une patiente m'a... Pas une métaphore, une réalité qu'une patiente m'a décrite. Elle est partie dans un lieu paradisiaque, je ne sais plus où. Et puis, ce n'est pas le plus important. Vraiment, ce qu'on voit à la télé, quoi. C'était le paradis sur Terre, d'une certaine manière. Et pas de problème d'argent. Le cadre était merveilleux. Elle n'était pas en paix. Elle n'était pas en paix, donc c'est pas le décor qui fait la paix. C'est comment vous sentez-vous.
Je t'en expliquais pourquoi elle n'était pas en paix, parce que ça, tu vois, je pense que les gens peuvent avoir du mal à se projeter, se dire non mais comment tu peux boire un café au beau milieu de Zanzibar, j'ai ça comme ça, et tu te sens pas bien quoi. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien justement?
T'es pas en paix avec toi-même, t'es pas en paix dans ton cœur, t'es pas en paix dans ton corps. Et en l'occurrence, elle n'était pas en paix dans son mariage. Donc, elle était avec son mari, avec ses enfants, dans un cadre merveilleux. Mais comme ça se passait très mal avec son partenaire, avec son mari, ben, elle n'était pas heureuse. Donc, c'est pour ça. Donc, elle avait tout en apparence, mais elle n'avait pas le plus important. Parce que le plus important, c'est pas d'être à l'autre bout du monde, c'est d'avoir la paix du cœur. Et quand vous avez la paix du cœur, on revient à l'essentiel, vous pouvez être apaisé juste avec un café dans votre salon.
Ça, pour ma part, c'est une certitude. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être, de vouloir sortir, profiter de la vie. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce n'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ça, c'est sûr. Parce que ce qui rend heureux, c'est que vous soyez bien avec vous-même et bien dans votre relation avec Dieu, bien à peu près psychologiquement, d'une manière équilibrée, et du coup, bien avec la personne qui partage votre vie. Et ça, du coup, si vous êtes bien, même si vous mangez à Ikea, enfin n'importe où, au McDo, façon de parler, enfin, un truc qui coûte pas cher en apparence, vous allez être en paix. Parce que le plus important, c'est pas ce qu'il y a sur l'assiette. C'est avec qui vous partagez. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de la vie et se dire, bah, même avec l'homme avec qui je suis bien, j'ai le droit de vouloir profiter et avoir voir des belles plages bleues. Vous avez le droit. Et alhamdoulilah, c'est en aucun cas en contradiction avec votre religion. Ce n'est pas ça. Mais n'allez pas vous dire, parce que vous allez aller là-bas, vous allez être heureux. Sincèrement, moi, je n'y crois pas.
Non, mais c'est intéressant parce qu'on reste encore toujours dans cette notion de juste milieu, en fait, de se dire que, et ça c'est très important de le préciser, l'islam, c'est pas une religion qui fait la promotion de la pauvreté. Il
Non.
faut faire très attention à ça. Ça peut être le cas dans d'autres religions, mais c'est vrai qu'il y a des hadiths qui disent que les personnes qui ont eu le moins dans cette dounia seront les premiers à rentrer au paradis, mais parce que c'est dur, justement, c'est
Bien
difficile de
évidemment,
vivre
bien évidemment.
dans un quotidien où on est vraiment financièrement dans une grande difficulté. Là, on n'est pas en train de faire la promotion de la grande difficulté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous, parce que
Amine.
c'est dur, vraiment, c'est difficile, la Oumamine. Mais l'idée, effectivement, c'est de se dire, et moi, franchement, je le vois comme une très bonne nouvelle, c'est de se dire que, alhamdoulilah, l'épanouissement, c'est accessible à beaucoup. C'est ça qui est magnifique, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas rendu le bonheur accessible qu'à une élite, en fait. Non, le bonheur peut se trouver dans des choses simples, et ça permet effectivement d'encore plus apprécier si demain on va voyager dans un très bel endroit, de se dire, oh, alhamdoulilah. La première chose qu'on va se dire quand on va se rendre dans ces endroits-là, c'est pas, ah, je suis trop bien, c'est alhamdoulilah là pour ce merveilleux cadeau, parce que c'est une exception, ce n'est pas ma norme, et je veux pas que ce soit ça ma norme, en fait. Ça, c'est the cherry on the cake, mais on peut pas demander à ce que la cerise à chaque fois soit le top de ma vie. Faut qu'on apprenne à apprécier le gâteau. Et de temps en temps, on a la cerise, ça fait plaisir. Mais le gâteau, déjà, si je l'aime, la plupart du temps, parce qu'encore une fois, on n'est pas ici, c'est pas le paradis, donc on sera pas tout le temps heureux. C'est pas pour ça qu'on est sur Terre. Il y a un livre comme ça qui s'appelle Happy Crassy de Eva Illouz, qui fustige un petit peu. Les gourous du bonheur, là, qui font justement du bonheur le nouveau Dieu, faut être heureux tout le temps, tout
Ouais,
le temps, tout le temps.
exactement.
C'est pas ce qu'on dit. Franchement, c'est pas ce qu'on dit, mais se dire être épanoui, justement, c'est encore une fois le juste milieu. C'est dire quand ça va bien, alhamdoulilah, ça va vraiment bien, et quand ça va pas, j'ai des outils pour faire en sorte que cette période-là, inshallah, ne dure pas, et que je puisse même quand même l'apprécier. Ce que dit le prophète, c'est heureux est le croyant. Quand il a des quand il arrive des bonnes choses, il dit alhamdoulilah. Quand il arrive des difficultés, il dit alhamdoulilah, parce qu'il sait qu'il sera récompensé de par ses difficultés. J'aimerais qu'on aille sur le dernier sujet, sur le dernier axe. Tu nous as dit que c'était celui qui prendrait, entre guillemets, le moins de temps, mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas important. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose, pardon, hein, sur l'axe psychologique et relationnel.
Non, je pense dans les grandes lignes, on a fait le tour, mais voilà, surtout prenez du temps pour que votre relation de couple se passe bien au niveau psychologique. Respectez-vous, faites preuve un peu d'empathie en insistant aussi sur ce qu'il y a de positif dans votre couple et pas que des reproches, parce que des reproches, ça mènera nulle part. Il faut aussi, voilà, accentuer ce qu'il y a de positif et minimiser un peu ce qu'il y a de négatif. Sans que les choses négatives, encore une fois, vous pèsent énormément. Parce que sinon, après, ça devient invivable. Voilà. Donc, ça, c'était un peu pour résumer très, très, très brièvement l'aspect psychologique. Après, du coup, sur l'aspect physique, je vais vous demander à tous un petit exercice. Toi aussi, Mélina, tu peux le faire.
Très bien,
Ça va
je
prendre
note.
quelques secondes, ça ne demande rien de particulier. Juste de fermer tous vos yeux. Je vais faire moi aussi, Inch'Allah. Ça va prendre quelques secondes. Donc, tout le monde a les yeux fermés. Imaginez en face de vous une personne, peu importe. Admettons, pour les femmes, imaginez-vous un homme. Et pour les hommes, imaginez-vous une femme qui a un visage crispé, froid, dur. Imaginez-vous ça, en colère, rouge. Voilà. Je vous demande d'ouvrir les yeux, de refermer les yeux et d'imaginer en face de vous une personne, donc du sexe opposé, avec un grand sourire. Juste ça. Vous pouvez tous ouvrir vos yeux. Pourquoi j'ai fait ce petit exercice? Enfin, voilà. C'est parce que le sourire, ça impacte énormément. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il considère le sourire du musulman à son frère comme une aumône. Et je trouve que c'est très important parce que ça ne veut pas dire qu'on doit avoir tout le temps, on doit être souriant tout le temps, mais dans un couple, c'est important d'accueillir l'autre, pas forcément quand il rentre du travail ou quand elle rentre de l'école ou quoi que ce soit, c'est pas ça, mais avec quand même un minimum à visage ouvert. Et je pense que quand je vous ai donné cet exercice-là, quand vous avez vu, enfin, quand vous êtes imaginé un visage crispé, froid, etc., c'était pas très agréable, on est d'accord. Quand vous avez vu un visage un peu souriant, etc., c'était beaucoup plus apaisant. C'est comme quand vous, un truc tout bête, hein, vous allez chez un professionnel de santé, il vous accueille avec un sourire, vous vous sentez à l'aise. Il prend le temps de vous écouter, il a le sourire, il est disponible émotionnellement pour vous. Il y a des personnes que vous allez voir, des médecins ou autres, ils sont froids, ils vous regardent pas, ils sont désagréables. Vous vous dites, je reviendrai plus. Parce que c'est pour ça que je dis que le sourire, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il faille nier encore une fois ce qu'on a à l'intérieur de nous, mais un sourire, ça réchauffe le cœur et ça amène de la tendresse entre les partenaires. Et ça, c'est très important. Souriez quand vous pouvez. Voilà, c'est le point principal. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, sur le physique, mais c'est quelque chose qui prend quelques secondes. Ce n'est pas un énorme effort, sauf quand on a des problèmes de santé. Mais voilà, c'est pour ma part le plus accessible et le plus facile et qui a énormément d'impact dans le couple puisque ça réchauffe. Et ça, vous voyez avec les exercices que je vous ai donnés ou avec autour de nous quelqu'un qui nous accueille avec le sourire. C'est pas normal, des fois, ça change dans notre journée. On va juste à la boulangerie, acheter une baguette. La personne, elle est super souriante, elle a une très bonne journée. Alhamdoulilah, ça fait du bien. La personne, elle est pas bien, elle vous parle mal. Je me dis, oh, purée, ça vous mine un peu, quoi. Voire même beaucoup.
Non, mais on le voit même. Vraiment, c'est pas. J'aime beaucoup mes amis parisiens. Hein. J'ai vécu à Paris 13 ans, enfin en région parisienne, et j'en garde des excellents souvenirs. Mais quand je suis revenue dans ma région d'origine, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait manqué. Je dis pas que personne ne sourit à Paris, ce serait un cliché que de dire ça, mais quand même, il y a une chaleur humaine qui manque, sincèrement. Et qui est palpable. C'est-à-dire que quand on repart dans une autre ville, moi qui suis justement d'un naturel comme ça, et c'est vrai qu'en province, on discute plus facilement avec, avec son boulanger, avec la personne qui fait la queue, une petite blague, un sourire, une facilité, on fait la queue, la personne vous laisse passer devant parce que vous n'avez pas beaucoup de courses. Eh bien, franchement, je me suis dit, subhanallah, j'avais pas vu à quel point je m'étais bridée. Parce que du coup, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais dans cette énergie-là. Et on m'a bien fait comprendre que, on a l'impression d'être bizarre, en fait, où les gens vous regardent de manière très méfiante, comme si on cherchait un peu des amis. Alors qu'en fait, non, c'est juste un état d'esprit qui est lié à un environnement. Et si on remet ça dans l'environnement du couple, eh ben, effectivement, enfin, il n'y a pas de meilleur cocon que la famille. Donc, si on a ça au sein de son cocon premier, mais c'est magnifique parce que ça permet de préserver son union et puis après, ça permet aussi de le diffuser ailleurs, quoi.
Mais ça, je suis d'accord avec toi. Faut voir les gens qui prennent le train le matin en région parisienne. Hein. C'est déprimant. Voilà.
En région parisienne. Hein. Je juge pas. On se réveille super tôt. On emmène les enfants très tôt à l'école. Et puis, on est déjà à moitié dans le travail. On sait que la journée va être rude. Et puis après, on revient. On sait que parfois, voilà, il faut faire à manger. Il faut faire les devoirs. C'est dur. Hein. Franchement, c'est super difficile. Mais force est de constater que du coup, effectivement, ça nous impacte, cette difficulté-là. Et puis derrière, ça se ressent sur le physique. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans ton déroulé d'axe. C'est que, en fait, on a commencé par le spirituel, et puis le psychologique, et puis après, on est reparti sur l'extérieur. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les deux premiers axes impactent sur le troisième, en fait. Et je ne sais pas si c'était du coup volontaire de ta part, mais il est évident que c'est aussi parce que les deux premiers axes sont sécurisés que le troisième axe physique, il peut aussi se déployer avec plus de facilité.
D'accord avec toi, mais il faut du temps aussi pour l'aspect physique, parce que là, bon, le sourire, ça prend pas beaucoup de temps, on est d'accord. Mais c'est important aussi, surtout aujourd'hui. On est dans une société où le corps de l'homme et de la femme sont très exposés. Et puis, en général, ce qu'on expose à la télé, c'est des belles personnes, avec très beaux physiques, des très beaux corps et des très beaux visages. C'est une réalité. C'est important de prendre soin de son corps. De prendre soin de son corps pour Dieu déjà, parce que c'est une amana, mais aussi pour soi et pour son corps, et pour son partenaire, pardon. Parce qu'il y a beaucoup de tentations à l'extérieur. C'est une réalité, on ne va pas nier. On a beau être musulman, croyant, pratiquant, tout ce que vous voulez, on est des êtres humains. Donc si à l'extérieur...
Ça n'empêche pas, en fait.
Dieu, les yeux, c'est aussi fait pour voir. Dans le sens, même si on doit faire attention avec les personnes du sexe opposé, c'est pas ce que je dis, bien évidemment. Peut-être d'avoir un contrôle à ce niveau-là, c'est important. Mais si on vit dans un environnement où, où plus l'homme peut-être est aussi beaucoup plus fragile à ce niveau-là que la femme, c'est une réalité biologique. Et si à l'extérieur, je fais tout pour me préserver, je fais attention, etc. Et puis je rentre chez moi, la personne, elle fait pas un minimum d'efforts au niveau physique, ça va être compliqué. Donc c'est quand même important, quitte à vous, à ce qu'il y ait de la séduction dans son couple, quitte à ce que, sincèrement, à ce que dans certains couples, ils se programmaient des petits rendez-vous. Allez, c'est peut-être pas romantique, c'est peut-être pas, parce que surtout quand on a des enfants, c'est un peu plus délicat, mais de se dire, allez, la nuit de jeudi à vendredi, si les besoins ne se programment pas forcément, c'est une réalité, on va se prendre un petit temps pour nous, etc. Et ça donne envie de s'apprêter, etc. Donc l'aspect physique, c'est important, c'est pas, on se dit, parce qu'avant le mariage, il y a beaucoup de séduction en général, et puis après, c'est bon, on se dit, on se marie, allez, c'est fini. Ah non, c'est pas là, c'est fini, c'est là où il faut justement retrousser ses manches et se dire, allez, je vais séduire mon partenaire. Et là, entre guillemets, tous les coups sont permis. Donc, c'est important de séduire. Après, il y a des moments où vous serez plus ou moins disponible, etc., en fonction de la fatigue, en fonction de l'âge, en fonction de la maternité, en fonction du nombre d'enfants qu'il y a à la maison, de l'âge des enfants, ça, c'est une réalité qu'il faut pas nier. Mais c'est très, très important, cet aspect-là. C'est pas le plus important, mais c'est important parce que dans certains couples, ça crée énormément de frustration, notamment pour les hommes. Parce que ce qui en découle, c'est l'intimité. Et aussi.
Ah, mais clairement. Bah oui, pardon, hein, je me sens obligée d'intervenir.
Ah, vas-y, je te laisse.
Parce qu'en fait, je pense qu'il faut faire vraiment attention aussi à pas minimiser l'intimité, dans le sens où effectivement, hein, c'est comme à chaque fois, c'est le dernier rempart. Ben en fait, c'est un peu le dernier des Mohicans, quoi. Vraiment, quand tout va mal, alors là, c'est vraiment l'intimité, on la jette à la fenêtre en disant, ça va, moi j'ai déjà plein de problèmes. Mais en fait, et ça, on en a déjà beaucoup parlé avec d'autres intervenantes dont les épisodes étaient vraiment consacrés à l'intimité, faut jamais le jeter à la fenêtre, parce qu'en fait, c'est justement parce qu'on l'a jeté à la fenêtre que les gros problèmes sont là aussi. En fait, souvent, tout est lié. En fait, tout est lié. Donc, ok, c'est pas le premier aspect par rapport à l'aspect spirituel, par exemple, mais c'est pas la dernière roue du carrosse non plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, tu disais que les désirs ne se contrôlent pas, etc. C'est vrai. Moi, j'ai écouté pas mal de témoignages de couples, etc. Et il y en a pas mal qui ont fini par avoir justement des moments d'intimité, ce qu'on appelle unscheduled, c'est-à-dire que c'était programmé. C'est pas le truc le plus glamour qui soit, mais il vaut mieux quelque chose de programmé que rien du tout, en fait. Parfois, il faut aussi se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Idéalement, ce serait super dans la vraie vie, dans l'idéal, on ne programme jamais rien, c'est génial, on n'a pas besoin de programmer pour qu'il y ait une intimité, quelle qu'elle soit, hein, une intimité qui soit présente. Mais s'il faut la programmer pour revenir justement sur un rythme satisfaisant, eh ben, il vaut mieux programmer que rien faire du tout, en fait.
Je suis d'accord, parce qu'on est dans une société où on est happé par beaucoup de choses, et donc du coup, des fois, de se dire, allez, comme ce que j'avais dit tout à l'heure pour l'axe spirituel, on va se programmer la nuit de jeudi à vendredi, éventuellement, voilà, c'est un exemple, Pourquoi pas de se dire, bon, allez, il y a peut-être des moments où c'est peut-être un peu plus facile, ça va être le mercredi soir, on va essayer de se dire, c'est une petite soirée en amoureux, entre guillemets, en
C'est
fonction de ce
pour
qu'on
nous,
peut,
exactement,
pour nous
exactement.
exactement. Et donc, je dis, ouais, je vais quand même faire un petit effort, voilà, physiquement, je vais peut-être m'apprêter, je vais peut-être, je sais pas, moi, passer à la boulangerie, prendre deux gâteaux, faire un repas un peu plus beau que d'habitude, enfin, voilà, que chacun fasse un effort en fonction de ce qui est important, de ce qu'il aime aussi, et de, mais c'est important, parce qu'il y a, faut pas croire, hein, mais l'intimité, c'est aussi un acte d'adoration, faut pas croire, parce que quand on a une relation intime, c'est aussi des bonnes actions. Donc voilà. Après, je dis pas qu'il fallait le faire pour avoir des bonnes actions, parce que je pense que l'intimité, c'est quelque chose de beaucoup plus profond quand même. Mais
Bien sûr.
c'est quelque chose de très important dans un couple, parce que quand il y a des
Oui.
difficultés à ce niveau-là, ça peut déclencher de gros problèmes après. Une réalité.
Exactement.
Ah oui, et celles qui
Ben
vont
oui,
en
c'est
couple, où les
une réalité.
conséquences seront plus importantes, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est
Ben bien sûr.
pas, enfin, c'est juste un problème de communication ou d'échange. C'est que là, ça va être pour la survie du couple, ça peut avoir des conséquences en termes d'infidélité, etc. Donc c'est beaucoup plus
Ben
dramatique.
là.
Ouais.
Ah bah oui, les conséquences peuvent être très très conséquentes. Et je te remercie aussi d'avoir parlé de l'importance de préserver son physique, dans le sens où ça c'est pareil, il y a eu un grand moment et je pense qu'on en est toujours un petit peu là à se dire oui, tu me prends comme je suis, c'est comme ça va, oui, déjà que j'ai eu des enfants ou déjà que bah, moi je vais travailler dehors toute la journée, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, etc. On n'est pas en train de dire qu'on juge que sur le physique, mais on est en train de se redire encore une fois qu'on a des yeux et que, en fait, ça sert à rien à chaque fois d'aller dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a eu cette époque où la femme, elle devait être tout apprêtée tout le temps pour son mari, etc. Les femmes en ont eu marre, le féminisme est passé par là et on s'est dit, oui, bah, faut que je pense aussi à moi, ce sera toujours moi d'abord, et puis moi, enfin, moi je fais ça, je vais m'épiler, je vais me maquiller, lui qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à mettre une chemise et du parfum, on lui demande rien de plus. Je pense qu'il faut sortir de ces extrêmes-là et de se dire effectivement, tu ne peux pas être apprêté tous les jours comme si tu faisais un défilé de mode, on est d'accord, mais en tout cas, il ne faut pas non plus se dire que le physique, c'est pas important. Si, c'est important, et ne serait-ce que comme tu l'as dit, déjà parce que notre corps, c'est une amana, Allah nous a confié ce corps-là. Donc on ne peut pas se permettre de manger n'importe quoi tout le temps, de ne pas faire d'efforts physiques. Et en plus, d'ailleurs, ça a un impact sur soi, sur le regard qu'on a sur soi-même. Parce que ça aussi, les gens ils te disent aime-toi comme tu es, oui, mais bon, si tu t'es laissé aller, des fois c'est dur de s'aimer. Il faut se dire la
C'est une
vérité. Et
réalité.
donc tout ça. C'est une réalité. Donc ça sert, enfin, faut pas trop écouter ce truc de oui, aime-toi comme tu es, etc. C'est pas parce que tu peux, bien sûr qu'il faut s'aimer comme Allah nous a créé. Ça sert à rien d'aller dans l'extrême de la réparation, de
Bien
la
sûr.
chirurgie. Il faut partir avec ce qu'Allah il nous a donné. C'est très important. Mais ça ne veut pas dire pour autant, encore une fois, qu'il faut partir d'un extrême de se dire bah, c'est pas grave, moi je peux prendre 60 kilos, qu'est-ce qu'il y a? Je m'aime comme je suis. Faut faire attention. Faut faire attention et il faut qu'on se dise les choses. C'est très important, je pense. Parce que le musulman est aussi quelqu'un qui se dit les choses avec douceur, avec bienveillance, mais on doit se dire les choses.
Non, mais évidemment, on peut s'aimer même si on a 60 kilos en plus, hein. Il y a pas de souci. C'est important de se respecter comme on est, etc. Mais à un moment donné, on parle du poids, on pourrait parler d'autres choses. Ça va nous
Bien
impacter
sûr.
comme mine de rien individuellement en termes de santé, parce qu'une personne qui prend 60 kilos, c'est clair que ça va avoir des conséquences
Et ben c'est
sur
ça en
plusieurs
fait.
points. Et du coup, pour le partenaire, il va pas vous voir de la même manière. Comme vous, imaginez-vous que votre partenaire, après, il peut avoir des accidents de la vie, il peut avoir des épreuves aussi au niveau physique, les
Exactement.
grossesses peuvent modifier le corps à un moment donné, et ça peut aussi avoir des
Ça oui.
conséquences sur le très long terme, c'est pas ça. Mais après, c'est important aussi d'être toujours dans la mesure du possible, hein, parce que c'est pas toujours facile, en fonction des capacités, de la réalité du quotidien, d'être quand même dans une démarche de séduction. En fonction de ses capacités, même s'il faut programmer un rendez-vous avec son partenaire, c'est pas très glamour, c'est pas très romantique, mais si c'est ça pour préserver un peu de complicité dans son couple, eh ben, alhamdoulilah.
Bien sûr. Je te remercie, Farida, pour tous ces éléments parce que je pense que tu nous as donné beaucoup à réfléchir, à méditer. Est-ce que tu voudrais justement nous donner un dernier conseil, offrir une dernière pensée aux personnes qui sont mariées et qui ont vraiment à cœur de se réapproprier l'épanouissement de leur union?
Quelques petits conseils très brefs. Vous n'êtes pas là pour changer l'autre. Tout à l'heure, on parlait de physique et il y a quelques instants. Quand vous vous mariez, il faut que vous acceptiez l'autre comme il est, au niveau psychologique, au niveau physique, d'une certaine manière. Comme je l'avais dit lors du dernier podcast, ne basez pas votre mariage sur des suppositions dans le sens où vous dites « je vais transformer l'autre ». Je pense que ce qui fait qu'un couple est heureux aujourd'hui, c'est que dans la globalité, la personne lui plaît, aussi bien spirituellement, physiquement, que psychologiquement. Et un couple heureux, c'est pas un couple qui essaie de façonner son partenaire, qui essaie à chaque fois de le rallier à sa cause et qui soit d'accord avec sa propre pensée. C'est se dire, toi, tu penses ça, tu as le droit de penser ça. Moi, je pense ça et je pense ça et il n'y a aucun souci. Ils ne cherchent pas à changer leur partenaire et à de l'amour, de la bienveillance, de la miséricorde. Et ça, c'est ce qui fait pour moi. Mais il y en a d'autres, hein, bien évidemment, qui fait qu'un couple est heureux. Mais un couple heureux, ce n'est pas un couple qui n'a pas de dispute. Hein. Faites bien attention. Parce qu'un couple qui n'a pas de dispute, je dirais même que c'est dangereux. Parce qu'on passerait même sur de l'indifférence. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Mais un couple heureux, c'est j'accepte l'autre tel qu'il est. Et quand il y a des disputes, ben, j'essaie de les gérer de la meilleure des manières. Et ça se passera bien. Mais en tout cas, et je n'oublie pas que mon mariage, c'est un acte d'adoration et tout ce que je vais faire pour mon partenaire, je mets l'intention que je le fais pour Dieu. Et comme ça, il y aura de la baraka, Inch'Allah.
Inch'Allah. Mais c'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup pour ces derniers conseils qui sont, je pense, extrêmement profitables. Moi, ce que je retiens de notre discussion, c'est que avoir un couple épanoui, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ça dépend essentiellement des personnes qui composent le couple. C'est ça la base. C'est vraiment ces deux êtres-là, ça dépend de l'intention. Rappelons-nous que nos actes ne valent que par notre intention. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous le dit lui-même. Donc, essayons de garder la bonne intention. Essayons de garder le contrôle aussi sur nos vies. C'est ce qu'on se disait, on vit dans une société où ça va vite, où parfois le monde dans lequel on vit va vraiment à contre-courant de là où Allah souhaiterait que nous soyons. Donc, restez vigilants par rapport à ça. L'avoir toujours en tête et de se dire comment je fais pour reprendre le contrôle, parce que reprendre le contrôle, c'est reprendre la possibilité d'avoir un couple épanoui, d'avoir une vie épanouie, d'avoir une foi épanouie. Et tout ça est lié. Tout ça est profondément lié. Je te remercie vraiment beaucoup, Farida. C'était passionnant. Je te remercie pour ton temps, pour tes conseils, pour ta sagesse, pour tes expériences, parce que voilà, on n'est pas tous psychologues, hein, on n'est pas tous thérapeutes de couple, et parfois avoir aussi le retour d'autres couples, ça permet, je pense, de faire des parallèles avec sa vie. Encore une fois, l'idée, c'est pas de comparer, mais c'est de donner comme du grain à moudre, en fait, et des éléments pour réfléchir à son propre couple, très important.
En tout cas, je te remercie pour l'échange. C'était très agréable pour ma part. Et puis, bah, ça permet aussi de remettre les choses à l'essentiel et de ne pas perdre le nord, en quelque sorte.
Eh ben, c'est exactement ça. Je te remercie vraiment beaucoup, Farida. Une dernière chose, je te demande ce que je t'ai demandé lors du premier enregistrement, comment les personnes peuvent te joindre si elles le souhaitent.
Alors, il y a plusieurs manières. J'ai un site internet. C'est www.lecoledumariage.com. Tout est accroché. Où là, vous avez quelques articles, quelques vidéos. J'ai aussi mon numéro de téléphone 06 21 05 26 42 et mon adresse mail fkaced@gmail.com.
C'est parfait. C'est complet.
C'est un peu efficace.
Exactement. Merci beaucoup, Farida. Je prends bien soin de toi et au plaisir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous et à toutes.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leurs devoirs. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.
Licking your chickeny fingers while gazing into your coworker's eyes is not appropriate. Taking a bite of a Twister wrap while gazing into your coworker's eyes is totally appropriate. So be a good workmate and get yourself a KFC lunch meal deal from just $5.49. It's workplace appropriate for when finger licking is not. Weekdays until 3 p.m. in store at participating restaurants only. See kfc.co.uk for full T's and C's.